cinéma. Vous trouvez ça normal?
Il n'y a pas que la musique. L'émission dans laquelle on parle un peu de musique et beaucoup de cinéma.
Je le méprise, le cinéma.
Écoutez-moi, que ça suffit comme ça. Emmenez votre âme, se calmer ailleurs.
Sur Radio Esperanza.
Bonsoir, journée chargée pour le cinéma aujourd'hui à Esperanza, puisque pas moins de 4 films étaient projetés dans la grange de l'abbaye de Floreffe. On a eu Pierre Rabhi, Au nom de la terre, le film de Marie-Dominique Delsing, Sababou, le film de Samir Benchik, et le célèbre film Buena Vista Social Club de Wim Wenders. Et enfin, le peut-être un peu moins célèbre film, mais meilleur que Buena Vista Social Club, on peut le dire, Rude Boy Story, documentaire sur le groupe de reggae français Dub Incorporation, dont le réalisateur Camir Meridja nous fait le plaisir de passer une demi-heure avec nous pour parler musique et cinéma. Alors c'est parti, Pascal, jingle.
Cinéma. Il n'y a pas que la musique.
On a invité sur des grands festivals comme celui-ci. Les Vieilles Charrues, Solidays, tout ça. On est pratiquement le seul groupe qui est toujours autoproduit de A à Z, qui avons un minimum de public, qui ont des tournées, des salles remplies, enfin, plutôt bien. Sauf qu'en termes de médias, on n'a aucun retour. Sans dire que les médias de façon générale, c'est notre objectif suprême, mais du coup, des moments, c'est un peu une sorte de frustration, de dire putain, vous n'avez strictement rien à foutre de nous malgré tout ce qu'on fait.
Mais vous étiez au Vieilles Charrues donc la semaine dernière.
Ouais.
Ah bah c'est les mêmes réalisateurs de scène qu'au Vieilles Charrues en fait.
Non mais en fait on était les seuls à pas y filmer. Donc dis-toi que alors qu'on a signé un contrat comme ici avec la même équipe, hein, sur le site internet des Vieilles Charrues, on est les seuls à pas avoir de photos. On est les seuls à pas avoir été couverts par des photographes. On a tous les artistes dans les trucs sauf nous.
Bah rien. Ouais, je vais poser la question au producteur, c'est un peu étonnant. Bon, là, c'est sûr que c'est filmé. Hein. Il y a les caméras, le réalisateur vient de vérifier, donc c'est sûr que c'est filmé.
La dernière tournée qu'on avait fait en été, c'est déjà arrivé qu'on soit dans des festivals, genre t'as Canal+, tu vois, la matinale. Nous, on joue en deuxième, ils vont interviewer et parler de ceux qui jouent en premier et en dernier, mais pas de nous. Et ceux qui jouent en premier et en dernier, ils sont signés en majeur, tu vois. À un moment donné, tu comprends pas pourquoi ils citent même pas ton nom, tu vois. Tu te dis, mais comment c'est possible, tu vois, c'est vrai, il y a un côté quand même, pour l'amour propre, c'est pénible, quoi. Tu te dis, mais on est boycotté ou... Tu vois, on n'a toujours pas compris le système, comment ça fonctionne, quoi, ça c'est sûr.
Que les gros médias s'adressent plutôt aux grosses maisons de disques, ça peut être un procès qui est fait. Au sein des rédactions, il y a une vraie volonté de faire du défrichage, de la recherche. Après, c'est notre boulot de persuader nos red chefs de l'intérêt. Mais c'est pas gagné, ça c'est vrai que c'est pas gagné et qu'on n'est pas à l'écoute de ceux qui ne sont pas sur le devant de la scène obligatoirement.
Ah non, mais je vais pas raconter de conneries. Évidemment que ça se passe comme ça. Évidemment que c'est beaucoup plus dur pour un groupe qui est inconnu d'attirer du monde s'il n'y a pas un buzz parce que tout d'un coup, il y a un truc qui s'est passé et tout le monde, on va se dire entre nous, putain, t'as vu tel groupe, putain, mais tout le monde en parle. Bon, ils jouent sur telle scène, on va tous y aller.
C'est plus difficile de faire un groupe, par exemple, comme le vôtre, plutôt que de faire Francis Cabrel. Ça, c'est évident. Et qu'on peut se dire, c'est peut-être pas très intéressant de faire Francis Cabrel parce que tout le monde le fait.
C'est toujours un peu frustrant parce que le public est là, le groupe est là, putain mais ça marche, j'ai 500 personnes devant moi, ils me suivent et tout. Qu'est-ce que foutent les médias ?
un extrait de Rude Boy Story, donc le documentaire sur le groupe de reggae français Dubbing. Camille Meridja, bonsoir.
Bonsoir.
Tu es donc le réalisateur de ce film qui a été projeté cet après-midi au festival. Comment ça s'est passé la projection ?
Bah écoute, très bien. Très bien, là, déjà j'ai trouvé le lieu super sympa.
Tu connaissais le Festival Esperanza ?
Non, pas du tout. Je sais que Dubbing avait déjà joué ici, mais moi je découvre. Donc j'ai beaucoup aimé la salle et puis l'ambiance sur les canapés, etc. Et puis il y avait du monde, donc c'était bien.
Et le film a été suivi d'une petite discussion avec le public. Mm-hmm. Ça a été la rencontre avec le public
Ouais. Après, c'est vrai qu'on est dans un festival et que moi, j'ai bien conscience que c'est un petit bonus de passer des films. Et les gens ne sont pas forcément, même s'ils ont pu apprécier, forcément dans une énergie pour discuter, échanger. Donc, mais il y avait une présentatrice qui était très bien, la petite Carolina, qui a très bien géré l'échange et donc c'était cool.
Mais c'est pour ça qu'on est là aussi justement pour essayer d'aller un peu plus loin et c'est vrai que les gens quand ils viennent à Esperanza sont pas forcément au courant qu'il y a du cinéma et ils rentrent un peu par hasard, ils sortent. Mais voilà, je suis très content que tu sois là pour parler un peu plus de ton film. Et donc dans l'extrait qu'on a écouté, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que tu interviews un journaliste qui parle donc de la médiatisation de Dubbing et qui parle de Dubbing en disant votre groupe. Et il parle à toi en disant votre groupe, comme si tu étais une partie intégrante du groupe. Et c'est un peu l'image que donne tout le film. On a l'impression que tu es vraiment à l'intérieur de Dubbing. Du coup, je me demandais quel était ton lien avec ce groupe. Est-ce que tu es un réalisateur extérieur qui fait un film sur Dubbing ou est-ce que tu es une pièce du groupe ?
Non, je suis complètement extérieur au groupe. Je ne fais pas du tout partie du groupe et je n'ai jamais fait partie du groupe. Et c'est vrai que l'intervention du journaliste quand il dit votre groupe, c'est parce que lui-même, finalement c'est par défaut qu'il dit ça, parce qu'au moment où je m'adresse à lui pour l'interroger, il ne connaît pas le groupe dont je parle. Donc moi j'étais un peu, bon j'avais ma caméra évidemment, mais quand je le sollicite, c'est un peu pour lui dire voilà, il y a ce groupe qui passe, qui ramène du monde, etc., vous n'en parlez pas dans les médias. Et en fait, il connaissait pas le groupe. Donc, il dit votre groupe. Il pensait peut-être que j'étais, je sais pas, le manager ou quelqu'un qui. Mais effectivement, non, moi, je fais pas partie du groupe.
Et alors, comment est née l'idée de faire un film sur Dubbing ?
Alors, ouais, effectivement. Moi, j'ai un. Étant de Saint-Étienne, comme le groupe, effectivement, quand tu es de Saint-Étienne, tu connais Dubbing, obligatoirement. Tu connais Dubbing, soit parce que tu les as vus commencer dans des petits bars ou dans des petits lieux, soit parce que tu as un lien quelconque avec un des membres du groupe. Bon, voilà. Je dirais qu'à Saint-Etienne, tout le monde connaît Dubbing.
Et toi, ton premier contact avec Dubbing, tu t'en souviens ?
Moi, mon premier contact, ça a été en fait... alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un lien de parenté avec le chanteur, on est cousins.
D'accord.
Mais c'est pas ce lien-là, finalement, qui m'a rapproché du groupe. Parce que bien qu'on soit cousins, on s'est finalement vraiment... rapprochés amicalement quelques temps avant le tournage en fait. On se connaissait pas tant que ça. Par contre, j'avais l'occasion de travailler en fait sur un projet de spectacle avec deux autres membres du groupe. Et c'est là qu'il y a des liens qui ont commencé à se faire et que je me suis un peu intéressé en fait au phénomène entre guillemets. J'ai eu l'occasion de les voir une fois sur scène et j'ai été assez bluffé en fait de l'impact scénique et de ce qu'ils arrivaient à véhiculer en termes d'énergie et de retour de la part du public.
Ce qui est très bien d'ailleurs rendu dans le film, qui a l'image du groupe très énergique.
Mais ça, c'est la première
dynamique.
Chose qui m'a frappé en fait, hein, c'est de voir comment un groupe arrive à mettre autant d'énergie et soulever les foules comme ça, sans forcément être connu. Et la deuxième chose qui m'a donné envie de faire un film, c'est surtout leur démarche en fait. Et le fait d'être encore aujourd'hui, en 2013... Moi, j'ai tourné le film entre 2008 et 2010. Ça faisait déjà 10 ans qu'il tournait. Ce groupe qui a su rester indépendant, autoproduit, sans signer en major, etc., en gérant tout de A à Z, de la création artistique jusqu'à la manière dont ils vont distribuer leur album, etc. C'est vraiment géré en interne. Et je trouvais ça assez extraordinaire et rare aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai voulu en faire un film.
On va reparler plus tard dans l'émission justement de cette indépendance, cette autoproduction qui est vraiment au cœur du film et au cœur du groupe. Et pour revenir sur la naissance du projet, donc tu parlais de Saint-Étienne. Ce qu'on découvre dans le film, c'est que Saint-Étienne a l'air d'être une ville très favorable à la culture, aux artistes. Et effectivement, il y a une espèce de scène, je sais pas, scène rock ou reggae qui est née à Saint-Étienne dans les années 90, comme on est en Belgique, je dis 90. et toi aussi, tu es originaire de Saint-Étienne. Et donc voilà, cette ville, qu'est-ce qu'elle a de particulier pour les artistes ?
Alors, c'est vrai que c'est une ville qui, en France, n'a pas forcément une image très positive. En tout cas, quand je voyage, je me rends compte aussi que les gens parlent d'une ville qu'ils ne connaissent pas parce que c'est une ville qui a un passé industriel très fort, un passé minier, et qui a gardé un peu cette image qui peut laisser supposer une ville un peu noire, un peu triste, alors que finalement, ça, c'est des choses qui ont bien changé aujourd'hui. Et c'est une ville, par contre, qui a gardé cette culture populaire, cette culture, c'est une ville d'immigration, c'est une ville d'ouvriers, etc. Et donc, tous ces aspects positifs, c'est-à-dire que les gens sont très solidaires les uns aux autres dans toutes les démarches. Ça a d'abord été sur la culture ouvrière, justement. Et ça s'est transmis, finalement, dans les générations avec la culture artistique. Et c'est une ville, effectivement, qui foisonne de gens dans tous les domaines artistiques et qui, contrairement peut-être à d'autres pratiques, les gens n'attendent pas forcément d'avoir des subventions pour faire les choses. Et ça a permis de faire naître tout un tas de mouvements artistiques, notamment dans le domaine musical, et Dubbing est issu de ça finalement. C'est un groupe qui a toujours décidé de fonctionner sans forcément avoir d'aide financière, même de... Quand ils ont commencé, ils n'avaient même pas de studio pour répéter ou de lieu pour répéter, quoi.
Donc, mais si à Saint-Étienne, il n'y a pas forcément plus de subventions qu'ailleurs, mais j'imagine qu'il y a quand même un terrain ou des espaces, des lieux qui,
qui permettent... Les choses se mettent en place petit à petit, effectivement. Aujourd'hui, ça a changé aussi dans ce sens-là parce que des infrastructures ont été mises en place, notamment, encore une fois, sur le domaine musical. Mais c'est vrai qu'il y a une culture, notamment rock et culture de rock indépendant à Saint-Étienne, où c'est ce que dit très bien Dimitri dans le film, qui s'occupe d'une radio associative... qui explique très bien en fait que dans les années 80 jusqu'aux années 90, finalement, il y a des lieux un peu alternatifs qui se créaient et qui permettaient à des groupes français et internationaux de pouvoir s'exprimer sur toute une culture alternative. Et effectivement, ça c'est lié aussi à cette manière de voir les choses d'un point de vue culturel dans une ville comme Saint-Étienne. Et encore une fois, qui n'a pas attendu forcément d'avoir les aides financières ou les infrastructures pour pouvoir diffuser des choses, montrer des choses ou même créer. Et ce que dit très bien Aurélien dans le film aussi, c'est qu'à un moment donné, les gens sont solidaires les uns avec les autres. Et que du coup, quand on met en place des choses, notamment musicales ou autres, on peut se faire prêter du matos par une association, on peut se faire prêter un lieu par une autre. Les choses se mettent en place aussi de cette manière-là. Et moi, c'est ce que j'aime dans cette ville, c'est ce côté justement fraternel, collaboratif, etc.
Et ce que tu montres dans ton film, qui n'est pas uniquement un documentaire sur Dubbing, mais qui montre justement cette vie culturelle stéphanoise qu'on ne soupçonne pas forcément. Et pour revenir à la naissance du film, donc tu rencontres Dubbing puisque tu es à Saint-Étienne, et tu as l'idée de faire un film sur eux, comme tu es frappé par leur énergie, leur dynamisme, tout ce qu'ils véhiculent. Et alors, comment tu leur proposes de faire un film ? Parce que moi, ce qui me frappe dans le film, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs films. Ça commence comme un peu comme un clip promotionnel où on voit toutes les tournées. On a l'impression, on est dans Dubbing dès le début, et on a l'impression, d'assister à un clip sur les tournées. Et puis très vite, en fait, on se rend compte que ça va plus loin et que tu creuses les sujets qui sont un peu plus tendus, l'argent, les scissions, les départs du groupe. Alors, comment tu présentes le projet au début aux membres de Dubbing?
C'est vrai que au départ, en fait, cette idée de film, elle vient d'une idée de laisser une trace quelque part. Et je me dis, c'est dommage qu'un groupe comme ça, le jour où il s'arrête, finalement, il reste, à part la musique, il restera rien en termes d'image de ces 10 années qu'ils ont passées complètement hors du système médiatique. Il n'en restera rien. Il faudrait faire un film sur cette histoire. Et donc, je me suis dit, il faut que je le fasse, en fait. Donc, j'ai écrit une trame narrative, hein, une sorte de scénario documentaire sur ce que j'avais envie de raconter et comment j'avais envie de le raconter. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis rapproché d'eux. J'ai d'abord pris contact avec le manager pour lui expliquer. Donc, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, d'ailleurs, au moment où je l'ai sollicité. Et je lui ai dit que je voulais faire un film sur son groupe et sur la démarche.
Et sa réaction a été
Il m'a dit, en gros, si t'arrives à les convaincre, vas-y. Parce que, bon, ce qui explique aussi le film, c'est vraiment un groupe qui valide tout en collectif, quoi. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui décide pour eux. Donc il m'a dit, je vais te les faire rencontrer, et puis tu leur présenteras le projet. Donc moi, j'en connaissais déjà deux ou trois dans le groupe. Donc ça m'a permis aussi d'arriver en terrain conquis, en quelque sorte. Je sortais pas de nulle part pour eux. Puis ils avaient vu mon travail que je faisais avant, puisque j'avais tourné déjà des courts-métrages de fiction, des choses comme ça. Et voilà, je leur ai présenté le projet en disant « J'aimerais faire un documentaire sur vous, sur votre démarche d'indépendance, pas forcément sur votre musique en tant que telle, mais vraiment sur cette notion d'autoproduction, etc. Mais par contre, vous devez m'accorder 2 ans pour le faire. » Et ça a été un peu réticent au début. Il y a vraiment eu une...
C'est-à-dire que dès le départ, avais dans l'idée durerait au moins 2 ans.
Ouais, parce que je me suis dit, un film comme ça, ça peut pas se tourner en un mois sur une tournée. On peut pas arriver à capter quelque chose. Je savais déjà que ça allait être difficile pour eux d'accepter la caméra, parce que c'est des gens qui sont quand même très mal à l'aise avec l'outil média. Des gens très timides et très réservés, même si sur scène, c'est des gens qui apportent une vraie énergie. Ouais. Et puis de toute façon, pour pouvoir vraiment vivre une expérience de groupe entre les tournées, la création d'un disque, les à côté, ça ne peut pas se faire en 3 mois. Donc j'ai vraiment imposé, effectivement, j'aurais dit, moi, il me faut 2 ans. Et voilà, et ça a été un peu dur de les convaincre au début, parce qu'ils n'étaient pas convaincus qu'un film soit vraiment nécessaire. Ils voyaient pas ce qu'il y avait à raconter sur eux. Ils avaient peur de cette caméra, etc. Bon. Et je leur ai dit, de toute façon, c'est moi qui le fais, le film. Vous n'avez pas grand-chose à perdre, en fait. Hein, c'est-à-dire que si ce n'est accueillir quelqu'un avec vous pendant...
Ils auraient eu à perdre que tu montres une très mauvaise image d'eux et que tu fasses un film qui les desserve. C'est un peu l'angoisse quand même de tout le monde qui est filmé par un documentariste.
Mais je pense que même si j'avais la légitimité finalement pour faire le film que je voulais faire, ils voyaient bien que j'allais pas faire un film contre leur démarche, puisque c'est au contraire cette démarche-là que j'avais envie de valoriser et de montrer. Et puis que si vraiment à un moment donné il y avait un vrai malentendu artistique, ils auraient stoppé le projet. Donc ils avaient quand même cette liberté-là de pouvoir dire on arrête la collaboration, quoi, et on ne te permet plus de filmer. Donc ils ont pris ce risque. Et puis à partir de là, je les ai suivis effectivement pendant 2 ans. Même s'il y a eu des hauts et des bas, mais je les ai suivis pendant 2 ans.
Ce qui donne le film, donc Root Boy Story de Kamir Merija. Et on va se faire un plaisir un petit peu. On va écouter un morceau de Dubbing.
Une nation comme une idole. Une fois de plus, la sentence est tombée. en France. Yeah, je l'aime, c'est ma terre. Quand elle respecte ses fils et qu'elle nous considère, on reste droit, fier, nos racines, nos pères. Fruit d'une histoire commune, amour et elles vont de pair. Et ces trois couleurs sur le drapeau ne suffisent plus à colorer ce tableau de ce pays, de ce peuple aussi beau. L'identité ne se résume pas à un mot. C'est qu'on fait nos pères quitter au fur leur terre, changer l'hémisphère, car à tous c'est cette terre. L'adaptation à cette nation s'est faite à la sueur de leur front. Puis c'est gagné une galère pour trouver des repères, un climat délétère, aujourd'hui plus qu'hier. Tant de questions, de confusion, être français n'est pas qu'une décision.
Tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule. Une fois de plus, la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation comme idole. J'prends sur moi et mes écrits se précisent. Encore un texte qui dévoile vos faiblesses, faiblesses. Ce qui émane de vos dires blesses, en somme. Je les protège quand on touche au mien. Aussi étranger quand on me parle de noblesse, noblesse. Et toutes vos lois ne s'appliqueront à personne. Tu prends ce qui t'intéresse, l'immigration sélective. Tu chantes la Marseillaise comme une sanction punitive. Ton identité nationale reste encore une belle connerie. Viens plus qu'une alternative, c'est de nous prendre pour des idiots. Ta politique se cache derrière tes mots. C'est de nous prendre pour des idiots. Tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule.
C'était tout ce qu'ils veulent de Dubbing et nous sommes toujours avec Kamir Merija pour parler de son film Rude Boy Story sur Dubbing. Donc tu nous disais que tu avais écrit un petit dossier avant de présenter le film au groupe et que tu leur avais dit il me faut au moins 2 ans. Et donc après le tournage, ça a pris combien de temps finalement ?
Le tournage a pris deux ans.
Tu t'es tenu à ce que tu avais dit
Ça leur a paru très long. Mais
Et alors 2 ans, pas en permanence avec eux, j'imagine.
Non, pas en permanence. C'est-à-dire que j'avais 2 ans. Donc j'ai tourné le film entre 2008 et 2010. Et finalement, ça a correspondu à... Le début du film correspond à la sortie d'un album qui s'appelle Afrikia. Et la fin du film correspond à la sortie de l'album Hors Contrôle. Donc finalement, c'est vraiment 2 ans de vie entre deux albums. Donc avec toute la partie tournée, la partie écriture et enregistrement d'un nouvel album, etc. Donc pour moi, ça c'était important de pouvoir vivre ça au plus près. Après, effectivement, j'étais pas avec eux tout le temps sur la route. D'autant plus que ça, c'est une des particularités aussi de ce projet, c'est que c'est un film qui s'est réalisé et produit sans financement, sans aide, sans apport financier, etc. Ce que j'avais pas forcément prévu au départ. Mais c'est arrivé un peu comme une réalité, c'est-à-dire que un film, habituellement, il faut un producteur qui va aller chercher des financements pour pouvoir produire le film. Sauf que là, j'ai même pas réussi à trouver un producteur.
Mais t'en as cherché quand même.
J'ai cherché, ouais, bien sûr. J'ai cherché, j'ai posé quelques dossiers, présenté quelques fois le projet, etc. Mais c'est quelque chose qui a pas suscité un intérêt particulier. Donc, je pense que beaucoup pensaient que j'étais en train de faire un bonus DVD, en fait. une sorte de bonus qu'on mettrait à la fin d'un album ou un truc comme ça.
De making of,
voilà,
d'une tournée.
La vie en tournée avec Dubink. Ouais. Bon, et j'ai eu beau leur expliquer que c'était pas ça, mais bon, voilà. Et puis le groupe, pour eux, n'était pas connu non plus. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui ont senti un intérêt. Et finalement, ça a été aussi à la fois un avantage de pouvoir faire le film que je voulais faire, mais aussi un inconvénient parce que financièrement, il fallait pouvoir suivre la cadence.
Mais si alors, si tu n'as eu aucune aide, aucune subvention, comment tu as fait? Tu n'as pas été payé sur le film?
Exactement. Ouais.
Et c'est-à-dire, donc, tu as travaillé donc, 2 ans de tournage, plus quelques mois de montage, sans être payé du tout sur.
Ouais, 3 ans en fait, exactement. Parce qu'après, il y a eu une année de post-production, du montage au mixage, etc. Donc ça représente 3 années de boulot.
Ce qui fait que tu n'étais pas forcément disponible tout le temps pour ouais. filmer, parce qu'à côté, j'imagine que tu devais aussi faire des activités
tout
pour gagner ta vie.
Exactement.
Et donc le tournage a duré 2 ans et tu nous disais que la caméra au début ça pouvait leur faire peur au monde du groupe et finalement ce qu'on voit dans le film c'est qu'elle est quand même plutôt bien acceptée.
Ouais exactement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont accepté je me suis vite rendu compte que la caméra leur posait problème dès que c'était en dehors de la scène. Ils avaient vraiment du mal, soit ils avaient un vrai blocage, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à s'exprimer devant la caméra. Soit au contraire, c'était plutôt de la rigolade. Quoi. Ça les faisait rire, ils n'arrivaient pas à être sérieux. Bon, un truc classique. Hein. C'est vrai que la caméra, ça peut être impressionnant. Ce n'est pas évident de pouvoir répondre comme ça à des questions.
Alors que sur scène, ils sont déjà en représentation.
Exactement, alors que sur scène, ils sont dans leur truc. La scène, c'est vraiment là où ils se sentent bien et qu'ils font leur taf. Donc je me suis dit, les premières images que je vais faire d'eux, les premiers mois, ça va être que de la scène. Et effectivement, j'ai fait que de la scène dans un premier temps. Et du coup, ça a permis de me faire une petite place petit à petit. Parce que sur scène, j'étais tout seul. Hein, j'ai fait le film avec une seule caméra. Donc très vite, finalement, ils m'ont associé un peu au show. Et je me baladais sur scène un peu librement comme je voulais. Donc je pouvais vraiment passer d'un musicien à l'autre sans problème. Et petit à petit, ils avaient même tendance à commencer à jouer un peu avec la caméra et à m'accepter comme un élément du concert. Quoi.
Ce qu'on voit dans le film, effectivement.
Et ce qu'on voit de temps en temps. Exactement, des sourires, des clins d'œil, etc. Et petit à petit, j'ai commencé à sortir la caméra en dehors. Ça a commencé par les loges. Et souvent, après les concerts, ils font souvent un débriefing tout de suite de ce qui s'est passé sur scène pour voir ce qui a fonctionné, pas fonctionné, etc. Et ça, j'ai pu le filmer sans trop de problèmes. Et petit à petit, voilà, je suis rentré dans une intimité. Et au bout d'un moment, effectivement, ils faisaient même plus attention à la caméra.
Et t'étais tout seul donc à filmer.
Ouais.
Pas de cadreur, pas d'ingénieur du son.
C'était moi.
La caméra, le micro sur la caméra.
Exact.
Ça
faisait partie un peu des conditions qui étaient un peu impératives et vis-à-vis du groupe. Parce que je savais très bien que ça aurait jamais été possible d'embarquer 3 personnes pour faire ce film. Le groupe aurait jamais pu accepter.
Et alors, malgré cette appréhension de la part des membres du groupe par rapport à la caméra, je pense que le temps que tu as passé à la filmer a permis quand même de les décoincer un peu par rapport à la caméra, parce que tu arrives à percer un peu la carapace et aborder des sujets qui fâchent. Il y a une séquence qui est très intéressante, qui est très belle, sur les départs de certains membres du groupe, où on sent une vraie tristesse de la part de certains membres quand ils parlent de ça. Ils en parlent avec beaucoup de pudeur et en même temps on voit que c'est quelque chose qui les a marqués, même si on comprend que c'est la vie normale d'un groupe. Et un sujet comme ça, c'était difficile à aborder avec eux. Tu les as travaillés ou ça s'est fait assez naturellement?
Ça s'est pas fait assez naturellement, effectivement, parce que comme tu le dis, c'est quelque chose qui a beaucoup affecté le groupe, en fait, cette séparation. Et le fait que 2 membres partent avant qu'un autre arrive. Et alors ça a pas duré longtemps. Hein. Ça a été une période de 3 à 4 mois à peu près dans l'existence du groupe. Mais ça a été une période un peu de transition pour eux aussi, parce que ça a remis en question l'existence du groupe. C'est ce que dit le film d'ailleurs. Et puis effectivement, ils sont partis en voyage. Ça leur a permis de prendre du recul et puis revoir un peu les choses. Et c'est vrai que j'ai attendu vraiment que le truc soit un peu digéré par les membres pour qu'ils puissent même mettre des mots dessus, parce qu'à chaud, c'était pas possible. Et puis c'est des gens qui sont pas extravertis, on n'est pas à l'école américaine, quoi. C'est des gens qui
sont pudiques, ils
sont très pudiques et du coup même dans la séparation ça s'est fait de manière très Il n'y a pas eu d'éclat de comment dire, d'expression ou de quoi que ce soit. Les choses se sont faites dans la discussion. Et puis voilà, il y a eu une séparation. Comme ça peut exister dans des couples, des fois, où ce n'est pas forcément une dispute en se balançant la vaisselle à la tranche, mais des fois, c'est dans la discussion. Et donc, il a fallu laisser un peu de temps. Et après, petit à petit, effectivement, je suis revenu sur des séquences d'interview. Et je pense qu'ils avaient envie, en fait, finalement, de témoigner aussi là-dessus. Parce que ça les avait touchés et qu'ils avaient envie d'en parler. Et je pense que petit à petit, même s'ils ne me l'ont pas dit directement, en faisant ce film, ils se rendaient compte aussi que c'était pour eux un moyen de laisser une trace de quelque chose. Et que finalement, leur histoire n'était pas si banale que ça. Et petit à petit, quand j'ai sollicité pour vraiment prendre des moments de discussion, de plus en plus, ça devenait facile pour eux de dire « Ok, je veux bien le faire », etc.
Et sur cette séparation, donc il y a cette tristesse qui est quand même véhiculée par certains membres du groupe. Et en même temps, il y a quelque chose de très comique que je trouve dans le film. Je ne sais pas si tu as cette impression. C'est l'arrivée du nouveau bassiste qui est allemand, qui s'appelle Moritz. Et donc, qui débarque dans ce moment un peu de flottement, de tension. Et je ne sais pas si tu as voulu le rendre comique, mais en fait, il est là et il ne parle pas un mot de français. Et à chaque fois qu'on le voit à la caméra, il parle juste deux, trois mots d'anglais. Et on se dit, mais qu'est-ce que cet Allemand qui ne parle pas français fait avec ce groupe de Stéphanois? Est-ce qu'il est encore dans le groupe ou
bien
pas?
Sûr, ouais. Bah, s'il vient tout à l'heure à la radio, vous verrez qu'aujourd'hui il parle très bien français. Mais effectivement, ouais, moi je trouvais ça assez drôle. Alors bon, comment devenir bassiste dans Dubbing quand on voit que les membres se connaissent depuis le lycée? Évidemment, c'était pas simple. Et pour eux, il n'y avait pas 36 solutions. Soit ils trouvaient quelqu'un avec qui, déjà un bon bassiste évidemment, parce que voilà, il faut pouvoir jouer dans ce groupe. Soit ils allaient trouver quelqu'un de Saint-Étienne pour garder un peu cette approche
familiale, locale. Ouais.
Soit ils allaient trouver quelqu'un qui serait en lien avec leurs valeurs et leur manière de faire de la musique. Et c'est vrai que Moritz, c'est quelqu'un en fait qu'ils avaient croisé sur la route, que le film raconte pas forcément parce que après on rentre dans quelque chose qui est plus de l'ordre de l'histoire de Dubbing, qui est moins intéressante pour le film. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qu'ils avaient croisé sur la route plusieurs fois, puisque Moritz jouait dans un groupe allemand avec un artiste qui s'appelait Jacoustix, et ils avaient déjà fait des tournées ensemble plusieurs fois. Donc, ils avaient eu l'occasion de jouer avec Moritz,
de faire
d'échanger,
des duos sur scène.
Voilà. Donc, quand la question s'est posée de trouver un bassiste, plutôt que de faire un appel et de passer un casting ou je ne sais quoi, ce qui ne correspond pas vraiment à la philosophie du groupe, ils ont cherché un peu dans leurs contacts les deux, trois bassistes avec qui ils aimeraient travailler. Et le premier qu'ils ont contacté, c'est Moritz. Et Moritz a dit oui tout de suite. Et effectivement, donc c'est vrai que c'est assez drôle. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Quand on le voit débarquer la première fois sur le premier concert, il est complètement stressé. Il ne parle pas un mot de français.
Et on se demande ce qu'il fait là.
Et on se demande ce qu'il fait là. Après, là, il y a une petite séquence qui lui rend un petit peu hommage où on le voit un peu jouer en solo et présenter au public. Et petit à petit, il y a une séquence un peu plus loin au Portugal où il commence à parler un peu français. Et c'est marrant de voir comment petit à petit il fait sa place. Mais aujourd'hui, il est presque stéphanois.
On en a déjà parlé un peu. Ce qui est très important pour Dubbing, c'est l'indépendance et l'autoproduction. Et on va tout de suite écouter un petit extrait du film où il est question de cette indépendance.
Indépendance, elle s'explique dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que de la première note composée à n'importe quel lyrisme qui va être replacé, en passant par la topographie, l'écriture des textes dans le livret, jusqu'au carton de l'imprimerie, jusqu'à l'affiche qu'on va mettre, jusqu'au bus qu'on va louer pour la tournée, tout est géré par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est 100% indépendant. C'est-à-dire que même nos partenaires, nos distributeurs, il presse des disques et c'est nous qui payons le pressage des disques. C'est-à-dire que lui ne fait que les mettre dans le magasin. Voilà, on a deux partenaires, un tourneur et un distributeur. Tout ce qui est production musicale, artistique et phonographique, c'est nous. On a appris à faire des CD par nous-mêmes de A à Z. Qu'est-ce que c'est que presser un disque? Qu'est-ce que c'est que la SACEM? Qu'est-ce que c'est que la SPPF? Qu'est-ce que c'est que tous ces organismes? qu'est-ce que c'est que le marché du disque, le juridique d'un CD, etc. Donc vraiment, notre métier de musicien, il dépasse ça, parce qu'on a tous, on a appris tout ça ensemble, quoi.
Si je rencontre quelqu'un sur Internet qui me dit « Ouais, venez jouer, je sais pas, au Vietnam », j'ai un pote qui a un bar au Vietnam, franchement, on peut s'arranger avec des subventions, on peut peut-être trouver moyen de payer quelques billets d'avion. Si moi, demain, j'arrive au local et que je vois les autres, je leur dis « Franchement, ce serait trop bien qu'on aille au Vietnam », eh ben, on le fera. Et ça, c'est, tu vas pas arriver chez Barclay en disant « Ouais, putain, j'ai rencontré un mec sur Internet qui a un bar. Je pense qu'il y a moyen qu'il nous paye deux billets pour... » Les mecs, ils vont te dire « Mais on s'en branle. » Et que nous, on peut faire vivre des rêves comme ça. Pour nous, l'indépendance, c'est ça. C'est pouvoir s'amuser à faire ce qu'on veut. Juste parce qu'on en a envie et qu'on se fixe pas de limites.
Pour nous, l'indépendance, c'est ça, c'est pouvoir s'amuser à faire ce qu'on veut juste parce qu'on en a envie et qu'on se fixe pas de limites. C'est ce que dit le batteur Zigo, c'est ça, dans le film Rude Boy Story. Donc Camille Meridja, on voit dans le film que cette indépendance, c'est très important, c'est quelque chose de très important pour Dubbing. Et en même temps, tu nous disais tout à l'heure que pour toi, pour ton film, ça avait été une contrainte, cette autoproduction, que tu avais cherché des aides, et que ça avait été plutôt une contrainte. Et dans le film, concernant Dubbing, on se demande si c'est à la base un choix ou une contrainte.
Pour le groupe ou
tu... Pour le groupe, ouais.
Bah, le groupe, finalement, c'est une contrainte quand tu es en train de faire les choses, en fait. C'est-à-dire que quand tu es en train de créer et que tu n'as pas un rond... c'est dur, évidemment. Surtout dans un pays comme le nôtre, où on sait qu'il y a énormément d'aide sur plein de choses, qu'on peut être accompagné dans beaucoup de démarches artistiques. Donc ça peut être difficile des fois de devoir créer sans avoir les financements qui te permettent de faire ce travail-là. Et beaucoup, beaucoup de gens renoncent en fait à un moment donné, que ce soit pour faire des films ou pour faire de la musique. J'irais surtout pour faire des films parce que le cinéma repose essentiellement sur des aides de ce type, quoi. Et beaucoup renoncent parce qu'ils n'obtiennent pas les aides et qu'ils ne peuvent pas se permettre de travailler gratuitement d'une certaine manière. Et donc c'est une contrainte quand tu fais les choses, mais quand tu arrives au bout et que finalement après tu peux récolter d'une certaine manière le fruit de ton travail, ça devient une force. Et Dubbing, c'est 15 ans d'existence de Dubbing. Donc les années galères, ils les ont connues les 5 ou 6 premières années en fait, hein, où ils ont accepté pendant ce temps-là s'accrocher à leur projet sans se gagner un rond, etc., en jouant de partout. Et aujourd'hui, c'est devenu une force.
C'est une liberté parce qu'aujourd'hui, ils ont les moyens financiers d'assumer leur autoproduction.
C'est-à-dire qu'il y a une phase à passer, qui est la phase la plus difficile. C'est de se dire, bon, on fait notre projet jusqu'au bout. On n'a pas forcément les moyens, mais si ça marche, ça marche. Et pour Dubbing, ça a duré bien 5-6 ans, peut-être un peu plus. Avant qu'il y ait vraiment une économie autour du projet et qu'eux se structurent pour aussi devenir complètement autonomes d'un point de vue production, tournée, etc. Et pour le film, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans une échelle plus réduite, c'est-à-dire que pour moi, il a fallu 3 ans pour structurer le projet avant de sortir en salle et avant de pouvoir vraiment assumer cette indépendance jusqu'au bout, parce que derrière, on crée une structure qui va permettre d'assumer cette indépendance et de pouvoir porter le projet dans les salles de cinéma, etc. Quoi.
Alors, quelle structure vous avez créée ?
En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, quand le film s'est terminé, moi, je voulais le sortir en salle parce que pour moi, c'était pas simplement un film sur le groupe, c'était un film sur une démarche, sur une aventure humaine aussi.
Sauf que la distribution en salle, c'est compliqué quand on n'a pas de producteur, quand on n'a pas de distributeur, quand on n'a pas de moyens.
C'est même impossible. Sans distributeur, c'est pas possible de sortir son film. Parce qu'un distributeur, pour sortir son film en salle et faire une vraie distribution, il faut avoir un numéro de distributeur qui soit validé et attribué par le CNC, Centre National du Cinéma. Donc et une salle ne peut pas garder un film en salle s'il n'y a pas un visa d'exploitation. Donc déjà, le système impose un truc que tu te dis, bon, j'ai pas le choix.
Et donc quand tu arrives à faire ton film au bout de 3 ans sans moyens, qu'est-ce que tu décides de faire pour distribuer le film ?
Moi, je voulais pas finalement laisser le film à un distributeur indépendant ou quelqu'un d'extérieur qui n'aurait pas forcément la, la philosophie pour distribuer ce film. Parce qu'un distributeur, généralement, il distribue un film et il travaille sur 2-3 mois maximum, pas plus. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, le film sort, n'existe plus en salle et puis éventuellement, le distributeur va travailler sur un autre film. Et comme Rude Boy Story, j'étais bien persuadé qu'il n'y aurait pas de médias derrière, qu'il n'y aurait pas de, d'aide médiatique pour pouvoir parler du film.
Comme ce qui s'est passé pour,
comme ce qui s'est passé pour le groupe. C'était évident qu'il fallait distribuer ce film sur du très long terme. Et en fait, avec le, c'est le manager à un moment donné qui m'a dit « Écoute, bon, t'as bien galéré pour faire ton film, mais finalement, la démarche que t'as adoptée, c'est la même démarche que nous. Pourquoi pas, là, du coup, s'associer ensemble pour sortir le film ensemble et prolonger la démarche jusqu'au bout, jusqu'à la distribution de Rude Boy Story. » Et finalement, c'est ce qu'on a fait. On a créé ensemble une société de distribution.
Mais alors, comment on s'improvise distributeur du jour au lendemain? Parce que c'est quand même un métier d'aller démarcher les salles, de placer le film, de vendre le film, entre guillemets.
Alors effectivement, ouais, nous, donc on a créé une société de distribution qui s'appelle Diversité Film. Et puis on a commencé à se renseigner, rencontrer des gens, rencontrer des distributeurs, le CNC, des producteurs, des expériences similaires. On avait rencontré les gens qui avaient produit et sorti Donoma, par exemple, qui était aussi dans une démarche d'indépendance.
Jean Carénard,
tout à fait, ouais, qui a apporté pas mal de points de vue aussi sur la question de Rude Boy Story. Et voilà.
Parce que Donoma, oui, juste pour expliquer en quelques mots, c'est un film, une fiction qui est partie de zéro, qui a été faite avec trois bouts de ficelle, très peu d'argent, et puis qui finalement a eu une aventure incroyable et qui a été projetée au Festival de Cannes dans une des sélections.
Tout à fait. Et donc, du coup, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose de similaire à trouver en étant un peu indépendant. Et on a simplement recruté ce qu'on appelle un programmateur dans le métier, c'est-à-dire quelqu'un qui fait ce travail justement de prendre contact avec les salles de cinéma pour présenter le film et pour pouvoir convaincre finalement les salles de prendre le film en salle. Et voilà. Et donc, on a sollicité un programmateur qui s'appelle Christophe, que je connaissais déjà un petit peu avant et qui avait déjà eu une petite expérience de distributeur, mais bon, nous, on n'avait pas les moyens de pouvoir faire appel à des gens très expérimentés. Et il est parti avec nous dans l'aventure, et on a tous fonctionné comme ça, et le film a pu faire une centaine de salles en France, et il a tourné en France pendant un an.
D'accord, il est sorti à quelle date?
Il est sorti en avril 2012.
Il était sorti sur combien de copies? Tu te souviens ou pas?
Bah, comme maintenant, on est sur un format numérique, ce qu'on appelle le DCP, on ne raisonne plus vraiment en termes de copies. C'est-à-dire que c'est des fichiers numériques qui se copient facilement d'un cinéma à l'autre.
Il est sorti sur quelques salles et ensuite il a tourné dans plusieurs villes en France.
Ouais, c'est ça. On a fait quasiment toutes les grandes villes de France et puis tout un tas de villes en périphérie, ce qui représente un peu plus de 100 villes ont projeté le film Rude Boy Story.
Et avec un public au rendez-vous?
Bah, à l'échelle du cinéma, c'est un peu différent que la musique, hein, c'est sûr. Déjà, les salles sont pas aussi grandes que les salles de concert. On peut avoir des salles de 50 places jusqu'à 200 ou 300. Mais à notre échelle, ça a été quand même très positif parce que sur l'ensemble des projections, on est à 10 000 entrées.
Donc, ce qui est pas mal pour un documentaire et surtout pour un documentaire autoproduit.
Complètement. Donc, il y a eu des salles pleines et quelquefois moins pleines, mais ça fait partie du truc.
Ici en Belgique, il est sorti?
Bah non, pas encore. En fait, on avait réfléchi un peu à faire une petite tournée en Belgique. D'autant plus que sur la question de la diffusion en salle, il y a des choses intéressantes qui se passent en Belgique. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire, mais pour l'instant, on y réfléchit.
Et pour nos auditeurs qui aimeraient voir ce film, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il est encore dans certaines salles? Est-ce qu'il y a un DVD qui est disponible? Comment on fait pour voir le film?
Eh ben, il y a effectivement encore quelques dates en France à la rentrée là. Donc c'est sur rudeboystory.com qui a absolument toutes les projections. Mais c'est vrai que depuis mai 2013, on a sorti le film en DVD. Donc après, c'est un film qui est en vente normalement un peu partout. Mais le mieux, c'est de le commander sur le site de Rude Boy Story. Pour l'avoir.
Ce qu'on ne manquera pas de faire. Merci beaucoup Camille Meridja d'avoir été avec nous. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot avant de nous quitter?
Bah non, merci pour l'invitation, parce que je trouve que le festival est vraiment chouette. Déjà le site est superbe, et puis l'accueil est super bien aussi. Et puis voilà, et ce soir il y a le concert de Bink et puis plein d'autres artistes que je vais aller voir.
Et oui, on précise que Dubbing sera donc en concert ce soir à minuit 15, il me semble, côté cour. Et nous, on les retrouvera tout à l'heure en studio pour une interview à 21h. Et juste avant l'interview de Dubbing, nous allons retrouver une interview en studio de Zoufris Maracas. Merci beaucoup, Camille Meridja.
Merci.
Et au plaisir de vous revoir. Et puis nous, on se retrouve demain pour la prochaine émission. Merci Pascal.
Il n'y a pas que la musique. C'est fini.